Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'introduction. J'ai aussi beaucoup d'estime et d'affection pour Philippe Sansonetti. Merci de l'invitation qui me donne l'opportunité effectivement de parler des travaux qu'on a menés sur la génétique humaine de la tuberculose. Alors avant de parler plus spécifiquement de la tuberculose, j'aime bien commencer par cette diapositive pour rappeler le poids qu'a représenté les maladies infectieuses sur l'humanité. Je ne sais pas si... Ah oui, un point. C'est censé être un pointeur, ça, c'est ça ? Il faut appuyer là. Ah oui, là, c'est bon. Merci. Donc, c'est simplement des courbes d'espérance de vie estimées chez l'homme à différentes périodes de l'humanité, y compris des périodes assez reculées, ce qu'on a pu faire, ce que les gens ont pu faire en examinant des sépultures. Il y avait énormément de squelettes. Et donc, vous voyez les époques en question, donc qui vont depuis les époques préhistoriques jusqu'à nos jours, en quelque sorte. Ce qui est, deux choses sont très marquantes. L'une est que dans une période qui va donc de la préhistoire jusqu'à la fin du 19e siècle, ici Liverpool en 1860, vous pouvez voir que l'espérance de vie restait quasiment stable, qu'il ne s'est rien passé de particulier en termes d'espérance de vie chez l'homme. Ça, c'est une première chose assez marquante. Et la deuxième, c'est évidemment, ce qui était assez connu, hein, cette mortalité infantile extrêmement importante pendant toute cette période, de l'ordre de 50%, puisque en gros, 50% à peu près des enfants mouraient avant 5 ans pendant toute cette période. Alors évidemment, il est difficile de savoir de quoi tous ces gens sont morts, mais on peut dire sans trop de risque de se tromper qu'en tout cas chez les sujets les plus jeunes, une bonne partie de cette mortalité est certainement due à des causes infectieuses, ce qui rend compte quand même de l'importance de ce problème, évidemment, dans l'humanité. Alors évidemment, de nos jours, les choses ont beaucoup changé. Quand on regarde une courbe en 2000 dans un pays comme le Royaume-Uni, vous voyez que ça n'a plus du tout la même allure. Et donc ce qui explique en bonne partie la différence de nouveau chez les sujets jeunes entre là et là, c'est ces trois mesures majeures, on va dire, qui sont développées pendant tout le XXe siècle, qui sont l'hygiène, les vaccins et le développement de médicaments anti-infectieux efficaces, en particulier les antibiotiques. Mais quand vous regardez même de nos jours des pays beaucoup moins favorisés, comme ici le Mozambique, on a toujours une situation quand même assez intermédiaire, et de nouveau la différence entre là et là, chez les sujets jeunes, est de nouveau due majoritairement aux maladies infectieuses. Donc, évidemment, la cause majeure même de mortalité chez les hommes tout au long de l'humanité. Alors, la première, évidemment, découverte majeure et avancée majeure dans le monde des maladies infectieuses a été la découverte que ces pathologies étaient dues à des micro-organismes, qui a donné lieu donc à la théorie microbienne des maladies infectieuses initiée et développée par Louis Pasteur. Mais lui-même, c'est intéressant de noter qu'il disait dans la maladie des vers à soie qu'il étudiait, qui était la flacherie, donc ce n'était pas forcément le microbe qui était transmis des parents aux enfants, mais peut-être la prédisposition à la maladie. Une autre découverte très intéressante, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, mais qui concerne plus généralement les maladies infectieuses, a été de montrer que, finalement, si le microbe était évidemment nécessaire à la maladie infectieuse, il n'était pas toujours suffisant, et c'est la découverte en particulier des infections asymptomatiques par Charles Nicolle dans les années 1910 à peu près, qui a quand même donc modulé un petit peu la théorie microbienne des maladies infectieuses, si on peut dire, puisqu'on pensait avoir presque tout compris lorsqu'on avait découvert le microbe en cause. En fait, il y a encore beaucoup de choses qui restaient à découvrir, puisque le fait d'être infecté et de porter le microbe n'était pas forcément suffisant pour expliquer la maladie causée par ce microbe. Alors cette variabilité, elle est évidemment observée dans la tuberculose. J'ai mis ici, pour des raisons historiques, cette observation très malheureuse et dramatique qui avait eu lieu à Lübeck, où se déroulaient des premiers essais pour la mise au point de vaccins dans les années 20, et où un certain nombre d'enfants avaient donc été inoculés de façon accidentelle par une souche virulente de M. tuberculosis. Et on avait pu observer une infection, donc, si j'ose dire, quasi expérimentale. On avait pu observer donc une variabilité d'événements cliniques assez variables chez les enfants. Comme vous pouvez voir, à peu près un peu plus d'un quart étaient décédés. Un certain nombre, presque la moitié, avait eu des signes variables d'infection, mais qui avaient fini par guérir. Et un certain nombre, non négligeable, n'avait eu absolument aucun symptôme. Une autre illustration de cette variabilité, dont a parlé un peu Philippe, c'est la variabilité de l'expression clinique de la maladie. Et là, c'est intéressant de regarder comment la tuberculose se présentait ici, donc au début du XXe siècle en Allemagne, mais ce qui reflète assez bien la façon dont elle se présentait avant l'avènement du vaccin et des antibiotiques. Il y avait donc cette mortalité de nouveau très importante chez le jeune enfant qui était due essentiellement à des formes disséminées de tuberculose, mortalité qui est finalement diminuée assez rapidement, et il y avait autour du début de la puberté, vers 10-15 ans, ce qu'on a appelé l'âge d'or de la tuberculose, et où effectivement les individus entre 10 et 15 ans avaient très peu de tuberculose. Et puis dès l'âge jeune adulte, dès 15 ans, va remonter une mortalité qui était due là, cette fois, à la forme classique de tuberculose pulmonaire qui, évidemment, se développait après chez l'adulte, comme ça a été observé, évidemment, en Europe pendant très longtemps, jusqu'au début du XXe siècle. Donc, une grande variabilité d'expression qui dépend de l'âge, en particulier, et sur laquelle on reviendra un petit peu plus loin. Alors, pour formaliser cela un petit peu plus, cette variabilité, elle va pouvoir s'exprimer au niveau des deux étapes principales qui vont de l'exposition à l'acquisition de l'infection, puis de l'infection au développement éventuel d'une pathologie clinique. Alors sur la partie infection, au passage de l'exposition à l'infection, c'est une partie qui est moins étudiée, plus difficile à étudier parce qu'il faut pouvoir bien mesurer l'infection et ce n'est pas toujours évident. Il y a l'IDR à la tuberculine, il y a maintenant des tests qui ont été développés de production d'interféron gamma qui sont au moins complémentaires, disons, de l'information que peut donner l'IDR. Mais il paraît quand même assez clair que même si la majorité des sujets exposés vont s'infecter, il semble qu'il y ait quand même une minorité de sujets, probablement de l'ordre de 10%, qui sont exposés de façon durable, répétée et à des... dans des zones fortement endémiques, disons, et qui apparemment ne s'infectent pas. Il pourrait donc y avoir ici une résistance même à l'infection, qui est un aspect qu'on étudie aussi, mais dont je ne vais pas parler aujourd'hui, parce que ce serait un peu trop long. Et je vais plutôt me focaliser sur le deuxième aspect, donc, qui est le passage de l'infection à la maladie clinique. Comme l'a dit Philippe, donc, c'est la minorité des sujets infectés qui va finalement développer une infection, soit assez rapidement après l'infection, environ 5% des sujets, assez rapidement voulant dire dans les 1 à 2 ans qui suivent l'infection, c'est ce qu'on appelle la tuberculose primaire, qui est souvent chez l'enfant, en particulier dans les zones fortement endémiques, et qui est assez souvent extra-pulmonaire. Et puis les autres personnes vont rentrer dans cette phase de latence, comme je leur dirai un peu plus tard, et certains d'entre eux, de l'ordre de 5%, vont développer au cours de leur vie donc cette tuberculose de réactivation, qui est là typiquement la tuberculose pulmonaire de l'adulte. Alors évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer sur ces processus et influencer ce processus. Très schématiquement, deux grands groupes de facteurs, ceux qui sont liés à la mycobactérie, évidemment les facteurs d'exposition, ils sont là surtout lors de la première phase, et puis des facteurs un peu plus intrinsèques à la mycobactérie, qu'on peut résumer comme des facteurs entre guillemets de virulence. Ce n'est évidemment pas des facteurs dont je vais parler aujourd'hui, ce n'est pas directement mon domaine. Et puis l'autre groupe de facteurs, c'est ceux qui sont liés à l'hôte, où là on peut distinguer donc ces facteurs non génétiques, et Philippe les a vraiment détaillés de façon assez exhaustive. Au premier rang, les facteurs non génétiques, j'en citerai juste deux, l'âge. Ce n'est pas la même chose d'être, comme on l'a vu, exposé et infecté quand on est un très jeune enfant, un adulte ou un adulte plus âgé, disons. Et puis, toute cause d'immunodéficience acquise, évidemment, quelle qu'elle soit, et Philippe l'a bien détaillé, va influencer ce processus. Et puis, donc, de l'autre côté, il y a les facteurs génétiques dont je vais
plus directement parler ici et qui vont pouvoir évidemment influencer également ce processus. Donc une grande variabilité individuelle de réponse. Donc je vais ici, donc je vous ai dit parler plutôt de la partie clinique, mais une agrégation familiale quand même qui avait été notée de longue date évidemment. Et comme le disait Theobald Smith dans les années 30, donc ça avait même été mis en avant avant la découverte par Robert Koch de la cause microbienne, je peux dire, de la tuberculose, que la tuberculose pourrait être une maladie en quelque sorte familiale, on ne parlait pas de génétique évidemment à l'époque, mais que cette idée en fait avait complètement disparu évidemment lorsque l'identification du microbe était arrivée. Mais avec en particulier la découverte des infections asymptomatiques, c'est une idée quand même qui a refait son chemin et qui a, entre autres, abouti dans les années justement 30 et puis un petit peu après, à la réalisation d'une série d'études familiales assez classiques, mais assez informatives et intéressantes. Il y en a eu vraiment beaucoup. Il y a eu un livre entier écrit là-dessus dans les années 44, là, tout à fait intéressant. Il y en a eu en Allemagne, il y en a eu aux États-Unis. Beaucoup étaient des études de jumeaux. Je vais en dire un tout petit mot sur ce schéma-là. Ce schéma qui est donc tiré de ce travail de Kalman et Reissner, où étaient comparés en quelque sorte des taux de prévalence de tuberculose dans différentes catégories d'individus, donc soit dans la population générale, où vous voyez une valeur de 1,3 à peu près, c'est des valeurs pour 1000, hein. Et puis dans des degrés d'apparentement différents, un cas index. Alors soit des gens qui avaient partagé le même environnement mais qui n'étaient pas des apparentés biologiques comme les époux, donc déjà qui avaient un taux plus élevé, mais dans les apparentés biologiques, donc les parents, les demi-frères, les frères ou sœurs complets, si je peux dire, ensuite les jumeaux dizygotes, c'est-à-dire les faux jumeaux, comme on dit, vous voyez que les taux augmentent notablement. Bon, dans la série, donc comme vous savez, les faux jumeaux, génétiquement parlant, sont exactement comme des frères et sœurs classiques, et ils ont tous des taux assez proches, même si on se sépare sur le sexe, il y a des petites différences. Mais ce qui était le plus impressionnant, c'est quand on regardait, par contre, les vrais jumeaux, qui, eux, donc, partagent 100% de leur génome, là, il y avait une augmentation tout à fait notable. Et ça, c'est en génétique, c'est un très fort argument assez classique lorsqu'il y a une différence nette entre, dans la concordance en quelque sorte, dans un phénotype donné comme la tuberculose, entre des vrais jumeaux ou des faux jumeaux, toutes choses égales par ailleurs, puisqu'ils ont le même âge, ils partagent évidemment le même environnement. Donc la grosse différence entre les deux, c'est qu'il y en a, dans un cas, ils partagent 100% de leur génome, et dans l'autre cas, que 50%. C'est un fort argument pour des facteurs génétiques. Donc beaucoup d'études de ce type qui, quand même, donnaient un assez fort crédit, disons, à l'hypothèse de facteurs génétiques de l'hôte dans la tuberculose. Donc, alors comment on passe donc d'une idée ou d'un concept basé donc sur toute une série d'observations épidémiologiques, familiales, etc., à la preuve de ce concept? Ben évidemment, ça a été tout le travail déroulé plutôt dans la deuxième partie du XXe siècle, et bien sûr qui se continue maintenant. Toute une série de travaux sur des modèles animaux. Bon, Philippe en a dit un petit mot. Il n'y a pas de modèle, évidemment, idéal, modèle animal idéal sur la tuberculose, mais néanmoins, énormément de choses ont été faites chez la souris, le cobaye, le lapin, qui montrent manifestement le rôle indique clairement que les facteurs génétiques peuvent jouer un rôle dans la tuberculose. Toutes ces expériences d'invalidation, par exemple, d'un gène donné, et ensuite de tester quelle est la variation de susceptibilité causée par l'invalidation de tel gène, va informer sur, évidemment, le rôle d'une part de la molécule codée par ce gène, et la possibilité donc, que des anomalies génétiques sur ce gène pourraient avoir un rôle dans le développement de la tuberculose. Mais évidemment, in fine, ce ne sont que les études chez l'homme qui pourront définitivement établir et qui ont maintenant commencé à établir qu'il y a des facteurs génétiques qui peuvent jouer un rôle dans le développement de la tuberculose. Donc, en fait, on essaye de répondre à deux questions corrélées. C'est essayer de comprendre pourquoi certains individus qui vont être exposés et infectés par le bacille de la tuberculose vont finalement développer une tuberculose, et par l'identification de ces gènes, mieux comprendre quels sont vraiment les circuits et les cascades biologiques qui vont être impliqués dans la réponse immunitaire au bacille et dans la physiopathologie, la pathogénèse en fait, de toute cette progression vers la maladie, de la rupture de latence, qui sont des choses extrêmement mal connues jusqu'à présent. On va donc rechercher en quelque sorte des variants génétiques qui vont donc essayer d'expliquer ces différences, ces variants génétiques étant situés dans des gènes qui vont être évidemment impliqués dans la réponse immunitaire au bacille. Alors comment, donc j'ai juste trois ou quatre diapos un peu générales de génétique pour essayer de vous expliquer un peu les stratégies qu'on peut utiliser pour essayer de mieux, vous puissiez mieux comprendre un peu les illustrations que je vais présenter après. Alors comment essayer d'identifier ce variant génétique potentiellement causal ? Donc là c'est toujours très utile pour présenter ces choses-là, de toujours considérer un peu ces deux pôles de prédisposition génétique, même comme si on va le voir dans la diapo d'après, évidemment il y a une espèce de spectre, un spectre continu pardon, de prédisposition. Donc ces deux pôles étant d'un côté cette génétique mendélienne ou monogénique, où on va rechercher le rôle de mutations rares qui vont avoir des effets individuels forts. Et pour ça, on verra donc des exemples sur des formes particulièrement formes sévères de tuberculose, sur lesquelles on a des résultats tout à fait intéressants. Cette génétique mendélienne, c'est la génétique monogénique classique, comme ce que vous pouvez voir dans les pathologies du téléthon, la mucoviscidose, enfin, c'est le même genre de mutations qu'on recherche. L'autre pôle, c'est une génétique plus complexe, où on va s'intéresser à rechercher des variants génétiques beaucoup plus communs, donc ce qu'on appelle des polymorphismes, qui vont avoir des effets individuels beaucoup plus modestes, c'est-à-dire qui vont juste augmenter un petit peu le risque de la maladie. Si on parle en termes de risque relatif ou d'autres ratios, comme on va voir tout à l'heure, c'est un facteur 1,5 ou 2, donc c'est modeste. Mais ces variants étant fréquents, l'impact au niveau de la population peut être tout à fait substantiel. Et on recherche plutôt ce type de variants dans des pathologies plus communes, et donc là, on verra bien sûr l'exemple dans la tuberculose pulmonaire de l'adulte. Et toute cette recherche se fait évidemment en utilisant les moyens de la génomique les plus modernes, et ces moyens ont considérablement évolué et progressé dans les 10 et même 5 dernières années, puisqu'on peut maintenant, comme vous savez probablement, d'une part génotyper des centaines de milliers ou des millions même de polymorphismes chez un individu de façon relativement simple et rapide. Et on peut même maintenant séquencer tout ou partie du génome d'un individu de façon aussi relativement simple, même si ce n'est pas encore routinier. Mais par exemple, le séquençage des parties codantes du génome, ce qu'on appelle l'exome, est devenu quelque chose qui est fait maintenant quand même assez couramment. Donc ça, c'est arrivé dans les deux ou trois dernières années. Alors, je reviens à cette histoire de spectre continu, parce que je crois que c'est vraiment intéressant de comprendre ça pour essayer de comprendre comment on peut aborder cette recherche et quelles hypothèses on peut faire sur les bases génétiques de la tuberculose. Donc là, c'est un schéma tiré d'une revue dans Nature, donc il n'a rien de spécifique dans la tuberculose. C'est un schéma qui est envisagé dans pratiquement toutes les pathologies humaines communes, on va dire, qui donne donc, en fonction de à la fois l'effet du variant et de sa fréquence, les différentes situations possibles. Donc vous avez ici, en ordonnée, l'effet du variant, qui est ici indiqué en termes de risque relatif. Donc j'ai mis qu'on pouvait souvent parler, on parle souvent d'odds ratio qui est, pour faire simple, dans la plupart des cas, une bonne estimation du risque relatif. Donc vous voyez que 1 évidemment veut dire qu'il n'y a pas d'effet, puisque 1 c'est l'absence d'effet. 3 veut dire que le risque est multiplié par 3 en gros, 50 multiplié par 50, donc c'est déjà des effets évidemment très importants. Et là vous avez la fréquence de l'allèle causal, donc là 10-3, 5 pour 1000, 5 %, donc des variantes très rares, rares, moyennement rares et relativement communs. Donc là, dans cette case, qui sont les variants très rares à effet fort, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le pôle mendélien dont je parlais, et ici, les variants à effet faible, individuel faible, ici, là, c'est de l'ordre de 1, 0.1, 0.5, c'est vraiment faible, et commun plus de 5 % de la population, donc c'est ces variants communs polymorphistes dont je parlais aussi en génétique complexe, qu'on recherche volontiers dans les maladies communes, en particulier par cette stratégie dont je dirais un petit mot tout à l'heure, ici qui est marquée comme GWA, ce qui veut dire Genome-Wide Association, donc c'est des stratégies d'association au niveau du génome entier. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que cette notion de spectre continu, donc que là, on a toute une série de variants de fréquences intermédiaires, avec des effets intermédiaires, qui pour l'instant n'ont peu ou pas été recherchés, parce qu'en particulier, on n'avait pas les moyens technologiques de le faire. Et donc là, il y a une espèce d'espace vide qui va être comblé sûrement dans les années à venir, et qu'il faudra combler, puisqu'il y a des cases qui manquent, si je puis dire. Alors les autres cases sont pas mentionnées parce que simplement, parce que les variants rares à effet très faible, probablement ils existent, mais ils sont quasiment indétectables puisqu'il est extrêmement compliqué de trouver un variant rare à effet faible. Et les variants qui seraient communs avec des effets forts paraissent quand même assez peu probables. Il paraît assez peu probable qu'ils existent, ou en tout cas s'ils existaient, je pense qu'ils ont été probablement éliminés assez rapidement. Alors, ces fameux variants génétiques, il y en a un nombre tout à fait considérable. Ça, c'est aussi une observation de ces dernières années. Toutes ces techniques de génomique ont permis de découvrir que la variabilité du génome humain était quand même assez considérable. Donc, le génome humain, c'est un peu plus de 3 milliards de paires de bases. Donc, il y a 4 paires de bases possibles, comme vous savez. Et vous voyez ici sur cette figure que dans les 10 dernières années, à peu près, depuis 2003, on est passé de quelques millions à quelques dizaines de millions de variants, ce qui fait que maintenant, on estime qu'il y a au moins 40 millions de variants reportés sur le génome humain. Alors évidemment, la plupart d'entre eux sont des variants rares, moins de 1%. La plupart de ces variants donc, sont ces variants qu'on appelle des single nucleotide polymorphism, ou SNP ou SNP dans notre jargon, qui sont donc des variants qui juste changent une base pour une autre, c'est-à-dire qu'à un emplacement, il y a des individus qui ont un A, et puis il y en a d'autres qui ont un G. Voilà, c'est des variants donc, qui changent un nucléotide par un autre. Et comme vous pouvez voir, il y a une énorme différence entre les variants dont on sait quelque chose, donc quelques dizaines de milliers qui ont été plus associés à une maladie, un peu plus dont on sait un peu quelque chose sur la fonction, ce qui sont annotés. Puis vous voyez que évidemment, l'énorme majorité de ces variants, on ne sait absolument pas leur rôle, probablement la penser que la majorité d'entre eux sont complètement neutres, et encore, je ne sais pas, mais on ne sait pas du tout quel rôle peuvent avoir ces variants. Donc là, il y a des... Donc, une des difficultés, évidemment, dans ces recherches, c'est comment, sachant qu'il y a 40 millions de variants, ou de cet ordre-là, trouver le ou les variants qui vont être intéressants pour telle ou telle pathologie. Donc ça, c'est un peu le propos de cette dernière diapositive de stratégie, si je puis dire. Comment on fait en pratique, donc c'est évidemment extrêmement résumé, mais ça vous donne un peu une idée de la stratégie générale, des principes qu'on peut utiliser. Alors évidemment, il faut d'abord recueillir des échantillons appropriés de la pathologie qui vous intéresse, soit des échantillons familiaux, suivant la stratégie et la méthodologie que vous envisagez. Ça pourrait être des échantillons familiaux ou des échantillons de type cas témoin, où vous avez un ensemble de patients, un ensemble de contrôles. Et une fois que vous avez ces échantillons, comment... En quelque sorte, on passe de millions de variants à quelques variants. Donc il y a une première étape qui va être de sélectionner un petit sous-ensemble de gènes ou de variants que vous allez réellement explorer en détail. Et donc pour ce faire, en gros, il y a deux grandes stratégies possibles. Soit vous les sélectionnez a priori, basées sur toutes les connaissances déjà accumulées sur le sujet, que ce soit en modèles expérimentaux, chez l'homme. On sait évidemment des choses sur la réponse immunitaire à la tuberculose. Philippe, j'en reparlerai, parle de l'interféron gamma, par exemple. Donc l'interféron gamma, on peut dire, c'est un bon candidat dans la tuberculose. Allons explorer le gène de l'interféron gamma et peut-être les gènes de ces deux récepteurs, gamma R1 et gamma R2. C'est un exemple de stratégie candidat qui est tout à fait raisonnable et qui a été extrêmement pratiqué, surtout avant que l'autre aspect, qui sont les approches génomes entiers, était possible. Donc évidemment, on fait ça a priori. L'inconvénient, l'avantage, c'est que ça ne coûte rien. On sélectionne le nombre de gènes qu'on veut. L'inconvénient, c'est qu'on explore quand même des choses qu'on connaît un peu déjà, malgré tout, en termes en tout cas de circuit de réponse. Donc l'autre approche, c'est de se dire, moi je ne veux faire aucune hypothèse, et je vais d'abord explorer tout le génome, et puis suite à cette première exploration, je prendrai les résultats les plus intéressants, et ceux-là, je regarderai, je vais aller les regarder de plus près. Donc ces études génome entier, elles peuvent se faire depuis à peu près une quinzaine d'années pour l'analyse de liaison, 7-8 ans pour les études d'association, 2-3 ans pour les études de séquence. Donc c'est les trois grandes approches qu'on peut utiliser. Elles utilisent des informations différentes. La liaison génétique, c'est par essence des études familiales. Et puis l'association et la séquence, c'est comparer des fréquences de variants, en gros, chez des cas et des témoins, mais avec des informations quand même de nature différente. L'association, ça va être plutôt des polymorphismes qu'on va voir, alors que la séquence, on peut théoriquement comparer tout type de variants, donc c'est beaucoup plus riche, mais évidemment beaucoup plus aussi difficile à analyser. Donc au terme de cette exploration génome entier, l'idée c'est, encore une fois, de retenir les résultats les plus intéressants, et ceux-là, on va aller vraiment les explorer, puisqu'il y a déjà eu un crible préalable. Et une fois qu'on a ce petit nombre de gènes ou de variants, donc ceux-là, on va les regarder de plus près. Cette première stratégie, cette première étape est assez semblable dans une approche mendélienne ou une approche complexe. Après, ça change un peu. En mendélien, comme je vous ai dit, on cherche des mutations rares à effet fort. Donc on va aller directement chercher ces mutations par du séquençage, typiquement. Et après, si on en trouve, on peut directement aller à essayer de valider fonctionnellement ces mutations. En étude génétique complexe, là, c'est, comme son nom l'indique, plus complexe, si j'ose dire. On va avoir besoin d'études d'association, donc c'est des études statistiques, hein, tout ça qui vont comparer des fréquences de ces polymorphismes parmi des cas et des témoins. Mais comme vous vous rendez compte qu'il va y avoir beaucoup de polymorphismes qui vont être testés, surtout s'il y a eu précédemment une étude génome entier, il va falloir que ces résultats soient vraiment reproduits et répliqués dans plusieurs échantillons indépendants pour qu'on soit un peu convaincu que ce soit des vraies associations et non pas simplement des... ce qu'on appelle des faux positifs, dus en particulier au fait qu'on teste un nombre assez considérable de polymorphismes, avant d'aller éventuellement aux études fonctionnelles pour chercher à valider biologiquement, disons, ces polymorphismes qu'on obtient par des études d'association. Alors, je vais maintenant passer à des choses plus concrètes et sur la tuberculose. Donc, en commençant par ces études mendéliennes. Et avant de passer directement à la tuberculose, parce que ces études de génétique mendélienne de tuberculose découlent directement d'études qu'on a faites dans le laboratoire, et en particulier faites par mon collègue Jean-Laurent Casanova, sur ce syndrome qui s'appelle maintenant le syndrome de susceptibilité mendélienne justement aux infections mycobactériennes. MSMD, c'est l'acronyme en anglais. Donc ce sont des patients, et presque toujours en fait des enfants, qui présentent des infections disséminées par des mycobactéries qui sont normalement non virulentes, en particulier le vaccin BCG, mais aussi parfois des mycobactéries environnementales, avec des infections sévères, parfois quand même un peu contrôlées avec des granulomes classiques, mais parfois complètement disséminées, où il n'y a même pas de granulomes qui se forment. Donc évidemment, ce sont des patients et des enfants qui n'ont pas d'autres anomalies, ils n'ont pas de déficit immunitaire connu en particulier. C'est un syndrome rare, heureusement, mais souvent familial, avec beaucoup de familles consanguines et ou des familles à cas multiples, ce qui évidemment tout de suite oriente vers des causes génétiques. Et suite à un travail donc initié en particulier donc par Jean-Laurent Casanova il y a maintenant presque une vingtaine d'années, il a pu être disséqué sur le plan génétique un certain nombre et découvert un certain nombre de mutations dans des gènes qui, globalement, sont tous justement dans ce circuit qui a vocation à produire l'interféron gamma, qui, comme Philippe le disait, est évidemment une cytokine tout à fait centrale dans la réponse immunitaire contre les mycobactéries. Donc c'est évidemment un schéma très simplifié pour illustrer les différentes molécules impliquées. Donc sont figurées en rouge en fait les molécules dont les gènes ont été trouvés mutés dans ce syndrome. Donc vous voyez que ces molécules sont pour l'une d'entre elles une des sous-unités de l'interleukine 12. Donc l'interleukine 12 est une molécule qui a vocation à aller stimuler par la production par les lymphocytes T et aussi les cellules NK d'ailleurs d'interféron gamma, qui en retour va aller stimuler dans la cellule dendritique et le macrophage, mais ça Philippe on a beaucoup parlé, la production de toute une série de molécules qui ont vocation à aller détruire la mycobactérie qui est intracellulaire, comme l'a beaucoup détaillé Philippe Sansonetti dans son exposé. Donc, des mutations dans une des sous-unités de l'interleukine 12, donc toutes ces mutations dont je parle sont presque toutes des mutations perte de fonction complète, donc là on parle vraiment de mutations rares et à effet individuel fort. Hein. Des mutations dans la chaîne bêta 1 du récepteur de l'interleukine 12, je vais y revenir parce que c'est un gène vraiment important. Des mutations dans les deux chaînes du récepteur d'interféron gamma, gamma R1, gamma R2, dans statin, donc qui est une molécule qui transduit le signal depuis le récepteur d'interféron gamma, et dans deux autres gènes qui sont indirectement liés à ce circuit, on va dire, donc NEMO qui est impliqué dans la voie CD40, CD40 ligand, et aussi un gène plus impliqué dans l'explosion oxydative, mais qui a certains rapports avec l'interféron gamma, qui est le gène CYBB, qui code pour une molécule qui s'appelle GP91FOX, qui intervient dans l'explosion oxydative. Je ne vais pas détailler trop cela. Alors évidemment, ça confirmait l'importance de ce circuit chez l'homme dans la réponse aux infections mycobactériennes. Ce qui a été aussi une surprise, c'est que ces défauts génétiques, hein, qui sont vraiment sévères, hein, puisqu'il y a des patients qui n'ont pas de récepteur d'interféron gamma, ce qui est quand même grave, malheureusement, pour ces patients, n'ont en gros pas d'autres infections, en dehors d'infections relativement fréquentes à salmonelle, donc qui est une autre bactérie intracellulaire, mais ils n'ont pas d'autres infections, ce qui était assez surprenant. Et puis, il y a des implications aussi médicales, puisque les patients qui ont les mutations ici, sur l'interleukine 12 ou sur le récepteur, leur problème est qu'ils ont un défaut de production d'interféron gamma, et donc on peut très bien les traiter par l'interféron gamma. Contrairement aux patients qui sont ici plutôt en aval et qui eux, ont un défaut de réponse à l'interféron gamma, et ceux qui ont un défaut complet, par exemple, du récepteur, évidemment, ne sont pas accessibles à ce type de thérapeutique. Alors, le point qui est intéressant, c'est qu'à partir en particulier de ce défaut ici, qui, comme je vais le décrire là, est le défaut de loin le plus fréquent, on a pu identifier les premières formes de tuberculose mendélienne. Alors, ce défaut, donc, on l'a trouvé dans beaucoup de pays. Il y a maintenant plus de 100 familles chez qui on a trouvé des patients qui ont ce défaut complet d'interleukine 12 récepteur. Il y a une grande hétérogénéité allélique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mutations. C'est une maladie récessive, hein, il faut avoir deux mutations, enfin une mutation sur chaque chromosome de la paire. C'est souvent des mutations homozygotes parce que c'est des familles consanguines, mais on a aussi des mutations hétérozygotes composites. Alors, par contre, sur le plan fonctionnel, c'est tout à fait homogène parce que ça aboutit à une perte de fonction complète et un défaut complet de réponse à l'interleukine 12, comme c'est indiqué dans ces expériences qui sont faites sur le sang, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va stimuler le sang des sujets par du BCG, puis par du BCG plus l'IL-12 qui doit induire la production d'interféron gamma qui est indiquée ici. Donc chez des contrôles, quand on rajoute de l'IL-12 au BCG, ça augmente la production d'interféron gamma. De même, ce qu'on appelle des contrôles de voyage, donc ça c'est du sang qui a en quelque sorte voyagé avec le sang du patient lorsque le sang du patient vient d'assez loin dans le monde. Donc ça fait un sang qui a subi les mêmes retards, si je puis dire, dans l'exploration. Donc là, on a bien une bonne réponse, alors que chez les patients, on n'a pas de réponse. Et si on fait les courbes individuelles, on voit bien qu'il n'y a pas de réponse du tout à l'interleukine 12. Et donc, ce qui nous a évidemment attiré vers la tuberculose, c'est qu'en regardant les fratries des familles de patients qui avaient le MSMD classique, dans certaines fratries, on avait des patients qui avaient la tuberculose. Donc là, ici, dans cette fratrie d'origine marocaine, par exemple, on avait une sœur qui avait une tuberculose abdominale.
Et cette sœur s'est révélée avoir exactement donc le même, la même mutation que son frère. Elle était également homozygote pour la même mutation YL2RB1. Donc c'était une preuve, en quelque sorte, qu'avec ces mutations-là, on pouvait aussi être susceptible à des mycobactéries plus virulentes, bon, ce qui pouvait paraître évident, mais encore fallait-il le prouver. Donc on avait quelques cas un peu isolés comme ça dans les fratries de nos patients MSMD, ce qui fait que dans certaines familles qu'on avait disponibles initialement, ou donc nous ont rapporté des collaborateurs avec plusieurs enfants qui avaient des tuberculoses sévères, on a regardé comme ça s'il y avait des mutations YL12RB1, et dans deux ou trois familles, on en a trouvé, effectivement, donc les mêmes, pas forcément les mêmes sur le plan allélique, mais aboutissant aux mêmes défauts, ce qui nous a permis de dire que, en tout cas, il y avait des tuberculoses sévères de l'enfant qui étaient dues à des mutations du gène YL12RB1. Alors, on a regardé ça de façon un petit peu plus systématique. On a constitué un premier échantillon de 50 patients, 50 enfants qui avaient des tuberculoses sévères. Et en recherchant systématiquement des défauts YL12RB1, c'est une approche, si vous voulez, gène candidat, là, pour le coup, YL12RB1, typique. Et on a trouvé 2 patients sur 50 qui avaient des mutations homozygotes de YL12RB1. Donc, c'est un petit échantillon. Ça fait quand même 4%, ce qui n'est pas totalement négligeable, évidemment. Et on a testé qu'un seul gène. Et donc, juste pour vous dire qu'on a tout récemment exploré l'alter ego, si je puis dire, d'IL12RB1, qui est IL12RB2, puisqu'il y a 2 chaînes du récepteur IL12, et on a trouvé des mutations d'IL12RB2 également dans des patients avec tuberculose sévère, donc ce qui augmente encore un petit peu la proportion de tuberculose mendélienne. Mais évidemment, il nous reste à maintenant passer à l'étape d'après, qui va être l'étape d'exploration alors génome entier, puisque là on pourra explorer de façon un peu plus large l'ensemble de ces patients et découvrir peut-être des mutations dans d'autres gènes, pas forcément liés d'ailleurs au pathway, enfin au circuit IL-12 interféron gamma. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, en particulier donc par cette approche dont je vous ai dit un mot de séquençage d'exomes où on va donc chez ces patients-là maintenant regarder l'ensemble de leur région codante par cette technique et donc essayer d'avoir une meilleure idée de la proportion de formes mendéliennes de tuberculose dans les enfants qui ont ces formes sévères, qui donc pourraient être loin d'être négligeables. Ça peut être, je ne sais pas, mais peut-être quelque chose d'important. Alors, je passe maintenant à une génétique plus complexe dans la tuberculose pulmonaire. Alors, je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Philippe sur la sévérité et l'augmentation de l'incidence de la tuberculose dans le monde. C'est évidemment un problème majeur de santé publique. Alors, juste pour vous mentionner qu'évidemment, dans la tuberculose pulmonaire, il y a eu un nombre considérable de ce type d'approche par gène candidat avec de multiples gènes. Je ne vais pas rentrer dans un descriptif qui est très fastidieux, mais globalement, en fait, il y a eu très peu de ces études qui ont été vraiment reproduites et dont on peut considérer comme acquis que tel gène, même les plus étudiés à certains allèles HLA, c'est vraiment difficile de faire la part des choses et de dire précisément, oui, effectivement, par une approche gène candidat, tel gène a été vraiment, de façon convaincante, montré comme étant associé à la tuberculose. Ça peut évidemment varier en plus d'une population à l'autre. Les formes cliniques n'étaient pas toujours comparables. Enfin, il y a plein de choses qui créent de l'hétérogénéité dans ces études. Mais néanmoins, il est difficile d'en tirer quelque chose de vraiment clair et convaincant. Alors, ce que je vais vous détailler un peu plus, donc, c'est une étude qu'on a menée récemment en utilisant cette stratégie génome entier qui passe tout d'abord par une étude de liaison génétique, puis après, dans la région de liaison génétique, la recherche de polymorphisme par des études d'association, une stratégie qu'on appelle volontiers clonage positionnel, qu'on avait déjà d'ailleurs utilisé avec succès dans la lèpre, et que là, on a donc appliqué à la tuberculose pulmonaire. Donc l'échantillon initial qu'on a utilisé pour la première étape, qui était l'étape de liaison génétique. La liaison génétique, comme j'ai dit, nécessite des familles, et des familles informatives, c'est-à-dire des familles avec des cas multiples de tuberculose pulmonaire, ce qu'on appelle des familles multiplexes. Donc on avait des familles avec 2, 3 ou 4. Alors je vais parler d'enfants. Enfants ne préjugeant rien de l'âge de la personne. Hein. C'est juste au terme offspring, en termes de. C'est le terme anglais offspring qui compte, puisque la plupart de ces enfants, si je puis dire, avaient plus de 15 ans, comme vous pouvez voir. Ils avaient tous une tuberculose pulmonaire confirmée bactériologiquement. Donc une centaine de familles de ce type étaient recueillies. Donc on a fait une analyse de liaison génétique. Donc Philippe m'a dit qu'il vous avait introduit le LOT-score, donc c'est très bien. Donc l'analyse de liaison génétique, c'est une méthode statistique en fait, hein, qui va en gros rechercher les régions chromosomiques qui vont être partagées par des apparentés qui sont atteints de tuberculose dans le cas précis. Et on peut quantifier ça après de façon statistique ou de façon probabiliste, si je puis dire. Et donc le LOT score est une statistique qui, plus elle est grande, plus c'est significatif. Ça peut d'ailleurs se retraduire en p-value, qui est peut-être un peu plus facile à lire, donc c'est ce que j'ai fait. Donc là, on avait identifié une seule région chromosomique sur le chromosome 8, qui présentait une liaison génétique significative sur l'ensemble des familles, et encore plus sur les familles pour lesquelles il y avait un parent qui était atteint de tuberculose, ce qui renforçait encore l'aspect un peu génétique de la chose. Donc on arrivait à des p-values assez intéressantes et qui étaient significatives à l'échelle du génome par ce type d'approche. Donc lorsqu'on a une région chromosomique de ce type, en fait, donc l'analyse de liaison génétique identifie des régions chromosomiques, hein, n'identifie pas spécifiquement des gènes. C'est néanmoins une méthode qui peut être tout à fait puissante et utile. Comme vous savez probablement, c'est la méthode qui a permis de localiser et d'identifier beaucoup de gènes dans des maladies monogéniques. C'est sûrement un peu moins puissant et performant dans les maladies complexes, mais ça peut avoir son utilité, comme c'est indiqué ici. Et donc, lorsqu'on a un résultat comme ça, on va prendre une région chromosomique avec un certain intervalle de confiance, en fait, et l'ensemble de cette région chromosomique, donc on va l'explorer plus finement par des études d'association pour essayer d'identifier les variants, le ou les variants qui peuvent, à l'intérieur de cette région chromosomique, être associés donc, à la tuberculose pulmonaire. Donc là, pour ce faire, on a utilisé d'autres échantillons, toujours au Maroc, pour rester initialement au moins dans la même population, puisque les études génétiques, évidemment, peuvent varier lorsqu'on va changer de population. Donc, initialement, il vaut mieux se focaliser sur la même population pour ne pas être confronté à des problèmes d'hétérogénéité dus simplement à des variations de fréquence allélique qui sont tout à fait communes entre des sujets européens, asiatiques, etc. Donc, on reste initialement dans la même population. Et là, on a d'emblée utiliser deux échantillons pour avoir un échantillon, ce qu'on appelle primaire, puis un échantillon déjà de réplication. L'échantillon primaire était un échantillon de nouveau familial, puisqu'on peut faire de l'association avec un design familial. Je ne rentrerai pas là dans les détails de méthodologie, mais c'est tout à fait possible et ça a certains avantages. Et puis le deuxième échantillon de réplication, lui, était un échantillon plus classique de type 4 témoins. On avait un ensemble de patients, 317, un ensemble de contrôles. Tous ces gens-là, là, pour le coup, étant indépendants sur le plan relation biologique. Donc ça, c'est les échantillons qu'on a recueillis. Et par ailleurs, en termes de variants génétiques, pour couvrir la région initiale, donc, qui faisait à peu près 6 mégabases, comme on va voir, on a pu déterminer, à partir des informations disponibles sur les bases de données qui sont maintenant extrêmement bien fournies, donc il y a des bases de données qui donnent la variabilité du génome donc pour tout un tas de populations, pas pour la population marocaine spécifiquement, mais on savait qu'elle n'était pas si éloignée que ça de la population européenne, donc on peut déterminer un ensemble de polymorphismes, donc de SNP, qui est nécessaire pour couvrir en quelque sorte la variabilité du génome, en tout cas pour des polymorphismes qui ont une certaine fréquence, donc là 5%. Puisqu'il faut savoir que ces approches-là sont faites pour des variants ou des communs, donc des polymorphismes qui ont une certaine fréquence. Ce n'est pas les mêmes approches pour détecter des variants plus rares. Donc on a fait ces génotypages dans l'échantillon primaire. Et voilà le type de résultat qu'on obtient. Donc ça, c'est une présentation assez classique dans ce genre d'études. Vous avez en ordonnée, c'est presque maintenant toujours le cas si vous regardez ce genre d'article, la p-value qui est présentée en log décimal, en anti-log décimal, si je puis dire, c'est-à-dire que 2 correspond à 10-2, 3 à 10-3, 4 à 10-4, donc c'est assez facile à lire. Et ici, en abscisse, vous avez les positions des marqueurs que vous avez testés sur le chromosome. Donc nous, on avait cette région du chromosome 8 d'à peu près 6 mégabases. Là, vous avez les gènes qui sont dans cette région et leur position. Et puis chaque petit rond, c'est un SNP qui a été testé et son résultat de thèse d'association. Donc là, il y a 3000 à peu près petits ronds. Donc vous voyez un peu la distribution. Beaucoup de résultats, évidemment, non significatifs. Et ce qu'on a choisi de faire, c'est de prendre tous les résultats qui étaient meilleurs que 10-2 à 1%. Il y en avait 44. Et ceux-là, on les a testés en réplication donc dans le second échantillon dont je vous ai parlé. Et en fait, il n'y a que deux SNP qui ont été répliqués, qui sont par là, dans le gène, un gène qui s'appelle TOX. Et c'est les deux seuls qui ont été répliqués. Ce sont deux SNP en fait, qui sont eux-mêmes corrélés, puisque, comme vous savez, les variants qui sont proches physiquement sur le chromosome sont souvent ce qu'on appelle un déséquilibre de liaison, c'est-à-dire qu'ils ont une corrélation entre eux, ce qui aboutit à... Il y a des clusters comme ça de variants qui se situent sur des petits fragments chromosomiques. Et donc les deux SNP en question en fait, étaient corrélés, ce qui veut dire qu'il y a un seul signal et que ces deux SNP, et on a pu le montrer par des analyses complémentaires, donc c'est un seul signal et ces deux SNP viennent là parce qu'ils sont assez corrélés en fait. Donc là, c'est un résultat un peu plus chiffré sur ces deux SNP, dont le nom est indiqué comme ça. Donc le nom des SNP, c'est toujours un nom en RS quelque chose, ça c'est la dénomination standard de ces variants. Donc vous avez les résultats en termes d'effet odds ratio et en termes de p-value dans le premier échantillon, dans le second et dans les deux combinés. Donc on arrivait à des odds ratios de l'ordre de 2 à peu près et à des p-values de l'ordre de un peu moins de 10-4, quoi, 10-5. Alors c'était déjà assez intéressant, mais ce qui a été surtout intéressant, c'est de regarder l'effet de l'âge des patients sur l'association. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un effet vraiment assez important. Donc, en fait, la distribution des âges survenus de la tuberculose chez nos patients est indiquée ici. Et la moyenne ou la médiane est de l'ordre de 25 ans, ce qui fait qu'on a coupé à 25 ans pour avoir à peu près moitié de l'échantillon moins de 25 ans et la moitié plus de 25 ans. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe chez les moins de 25 ans, l'effet augmente considérablement, en termes d'ostration en particulier, et même en termes de p-value, ce qui est notable, puisque là, on sépare l'échantillon en deux, donc on a deux fois moins de sujets, mais néanmoins, la p-value continue à baisser, surtout pour le premier, vous voyez, 10-8, ici, moins aussi, mais 3, 10-5, alors que l'effet disparaît pratiquement dans les sujets de plus de 25 ans. Il y a un petit quelque chose, mais ce n'est même plus significatif. Donc un effet chez les plus jeunes, ce qui est toujours assez intéressant, puisque... comme je vous le redirai à la fin, il est sûr que les effets génétiques les plus forts ont toute raison de se révéler en quelque sorte chez les sujets les plus jeunes qui vont se manifester assez rapidement. Alors avec ce résultat-là, on a cherché à le confirmer relativement, c'était un résultat déjà assez fort, mais on a voulu voir si on pouvait le reproduire dans un échantillon, alors pour le coup complètement différent en termes d'origine ethnique. On avait mené précédemment une étude à Madagascar, on avait pu recueillir un échantillon qui était aussi un échantillon familial, d'ailleurs de 250 à peu près familles. Et on a regardé ce qui se passait donc, au Maroc, là je vous ai mis un des SNP précédents, là, chez les moins de 25 ans. Et alors on a eu de la chance, si je puis dire, parce qu'on a pu reproduire l'effet, c'était assez juste. Et le fait qui explique cela, c'est que la fréquence de l'allèle à risque qui est assez fréquent vraiment au Maroc, puisque c'est 0,44, comme vous pouvez le voir, est beaucoup moins fréquent à Madagascar, il est d'ailleurs beaucoup moins fréquent globalement dans les populations africaines, 0,15, qui évidemment va diminuer notablement la puissance pour détecter l'effet, puisqu'il y aura beaucoup moins de sujets porteurs de l'allèle à risque. Mais néanmoins, on a pu quand même avoir un effet significatif dans le bon sens, ce qui permettait de, on va dire, vraiment confirmer l'effet qu'on avait retrouvé au Maroc.
Alors, ce fameux gène TOX, en plus, c'est assez intéressant. C'est un facteur nucléaire qui avait été trouvé initialement dans le thymus. Il est assez intéressant parce qu'il est impliqué dans plusieurs aspects de la réponse immunitaire, et en particulier dans le développement des cellules TCD4, ce qui évidemment est tout à fait intéressant vu l'importance des cellules TCD4 qui est mise évidemment en évidence, comme l'a redit Philippe, dans les patients infectés par le virus VIH. Donc évidemment pour l'instant on n'a pas d'éléments fonctionnels à apporter, mais cette seule constatation est intéressante. Alors, dernier point qu'on avait regardé, qui était aussi assez intéressant, c'est que donc, dans toutes ces databases là, qui sont disponibles maintenant sur la génomique, il y en a énormément, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a tout un projet qui s'appelle ENCODE, qui a fait énormément de choses, et qui en particulier s'attache à identifier, on va dire, les régions un peu fonctionnelles du génome, par toute une série d'approches que je ne vais pas détailler. Mais néanmoins, donc on peut regarder à certains endroits du génome ce qui a été trouvé dans le projet ENCODE. Et il est tout à fait intéressant de noter qu'au niveau de notre SNP d'intérêt ici, il se trouve qu'il se situe juste au milieu d'une région identifiée comme régulatrice, où en particulier se fixe toute une série de facteurs de transcription. Donc ça, c'est des expériences de ChIP-seq. Hein. C'est des vraies expériences. Hein. C'est des choses où la fixation de ces facteurs de transcription a été constatée et qui est probablement régulatrice aussi parce qu'on sait qu'il y a une hypersensibilité à la DNA, ce qui montre que probablement c'est une région qui est plus accessible et qui s'ouvre en quelque sorte pour des mécanismes régulateurs justement. Donc ce fait aussi est tout à fait intéressant. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est d'explorer ces choses de façon plus fonctionnelle, de regarder en particulier l'expression de TOX dans les cellules T, en fonction du génotype à ce variant génétique pour donner un peu plus de... pour étayer, disons, biologiquement l'effet qu'on a retrouvé ici. Voilà, et juste un mot pour terminer sur les études, de cette approche très classique d'études d'association génome entier, donc qui a été extrêmement utilisée donc, dans les 7-8 dernières années dans pratiquement toutes les pathologies humaines. On va faire une étude d'association génome entier avec ces puces qui permettent de génotyper, comme je vous ai dit, maintenant 2 millions à peu près de SNP, en tout cas plusieurs centaines de milliers. En fait, il y a eu une seule étude d'association génome entier qui a été publiée dans la tuberculose jusqu'à présent. Elle a été faite dans une population d'origine africaine de l'Ouest, Gambie et Ghana. Et le résultat était finalement assez décevant, puisque malgré un échantillon quand même tout à fait... important en termes de taille, hein, 3500 patients, 7500 contrôles. Le meilleur résultat qu'ils ont obtenu, c'est un variant situé sur le chromosome 18, dans une région intergénique, avec un odds ratio de 1,19, donc évidemment, ce n'est pas une association extrêmement forte, et une p-value juste significative au niveau génome entier. Donc c'est évidemment un résultat relativement décevant en termes de... On n'a rien découvert de particulier si on compare à d'autres pathologies où il y a plusieurs signaux tout à fait impressionnants. Ce n'est pas du tout le cas, ce qui a été observé dans cette population d'origine africaine de l'Ouest. Et juste pour vous dire que pour nous, qui menons aussi une étude génome entier au Maroc, on a le même genre de résultat, en fait, et on n'a en tout cas pas de signaux importants qui sortent. Donc il est vraisemblable, disons, que dans la tuberculose pulmonaire, il y aura un rôle assez limité de variants communs, en tout cas, qui peuvent être trouvés avec des stratégies de type analyse génome entier. Bon, il faudra voir dans d'autres populations éventuellement, mais pour l'instant, la tendance est plutôt celle-là. Donc, pour résumer et essayer de conclure, si on reprend ce schéma très... classique donc de l'évolution de la tuberculose vers l'infection, puis tuberculose primaire, latence, réactivation. Donc à cette première étape là, dont on a parlé, il est clair que maintenant il y a des formes mendéliennes qui prédisposent à développer une tuberculose, en tout cas sévère, extra-pulmonaire de l'adulte. Pour l'instant, les seules choses qu'on a trouvées, mais c'est aussi à peu près les seules choses qu'on a cherchées,
se situe dans le circuit IL-12 interféron gamma, donc c'est ces gènes de récepteurs de l'interleukine 12. C'est intéressant de noter, comme le rappelait Philippe, que c'est dans ces formes primaires que le BCG a son meilleur effet protecteur, peut-être parce que justement il y a une phase hématogène là, qui peut être mieux contrôlée par le BCG, en particulier évidemment pour les formes extrapulmonaires. Dans cette étape, qui est vraiment l'étape critique, le passage de la latence à la réactivation, qui est vraiment l'étape qu'on connaît le moins bien sur le plan de la physiopathologie. Donc, je vous ai raconté cette histoire de ces SNP tox dans les formes précoces de tuberculose pulmonaire, qu'on va essayer de mieux caractériser sur le plan biologique. Comme je vous ai dit, il est vraisemblable qu'on ne pourra pas s'attendre à grand-chose des études génome entier et donc du rôle de variants communs, je dis bien de variants communs. Juste pour rappeler qu'ici, ce qu'on connaît, les deux choses qui nous permettent d'avoir une connaissance très partielle, c'est ces deux événements qu'a rappelé aussi Philippe, hein, c'est l'infection VIH, donc les CD4 sont évidemment importants, et puis c'est cette observation plus récente des anti-TNF qui montre que la voie TNF sûrement a quelque chose à voir, mais beaucoup de gens regardaient, et nous aussi, les gènes liés au TNF, et en tout cas sur le plan génétique, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent sur l'aspect TNF. Et là, juste pour vous dire, j'en ai pas parlé, mais j'ai pas le temps. Mais là, on a des choses intéressantes aussi. On a fait une analyse de liaison génétique aussi sur l'infection et qu'on a le même genre de démarche que je vous ai décrite un peu dans l'histoire de Tox. On est en train de la mener ici au niveau de l'infection elle-même. Donc tout ça, c'est évidemment avec le but de vraiment essayer de comprendre les circuits, la physiopathologie, la pathogénèse de la maladie, surtout de cette histoire de latence qui est évidemment la plus critique, pour essayer peut-être de développer après des vaccins plus efficaces, si c'est possible, surtout sur la partie latence, c'est quand même très compliqué, parce que, probablement, et peut-être de nouveaux traitements qui visent plutôt à restaurer une réponse immunitaire déficiente. Et je reprends l'histoire de l'interféron gamma, là, puisqu'il y a donc des patients qui développent des tuberculoses sévères, et qui ont des mutations de l'IL-12, du récepteur de l'IL-12, et donc qui peuvent très bien être traités par l'interféron gamma. C'est un traitement qui pourrait être très efficace si les antibiotiques ne suffisent pas ou dans des formes particulièrement sévères. Hein. Ces formes sévères, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est des enfants qui ont des méningites, qui ont des miliaires, qui ont des formes osseuses, ce genre de patients. Et malheureusement, dans un certain nombre de pays, il y en a encore pas mal. Hein. Malgré le vaccin BCG, hein, c'est des populations qui sont correctement vaccinées par le BCG. Voilà, donc si je reprends mon schéma initial du départ, donc ici on a effectivement un rôle prouvé, dans certains cas il reste à estimer la proportion, ça peut être non négligeable. Ici un rôle limité sûrement des variants communs, peut-être un rôle quand même dans les formes les plus précoces, et puis il reste donc ce grand... trou, là, si je puis dire. Ça n'a pas été exploré jusqu'à présent, hein, vraiment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire, nous, que font sûrement d'autres, pour voir si ça pourrait être une hypothèse alternative, parce que, encore une fois, je pense qu'avec ce type de variant, on ne va pas pouvoir attendre grand-chose dans la tuberculose pulmonaire, malheureusement. Alors, évidemment, ce spectre génétique, il dépend de l'âge, hein, je pense que vous l'avez compris, c'est-à-dire que ça, c'est un peu notre hypothèse générale dans le laboratoire. Les formes mendéliennes vont évidemment se révéler très vite, lors de l'infection primaire, lors de la primo-infection. Alors évidemment, ça dépend du niveau d'endémicité, mais dans des régions fortement endémiques, les formes de tuberculose sévère de l'enfant vont se révéler lors de la primo-infection, qui peut arriver effectivement à un âge tout à fait jeune. Et puis ensuite, les effets dits intermédiaires dont j'ai parlé plus tôt, un peu plus tard dans la vie, et puis pour les formes adultes, donc ce qui touche plutôt à la réinfection ou la réactivation, un aspect plus multigénique, mais on a vu que ça allait être probablement assez compliqué à identifier. Et alors, juste pour s'amuser, si on superpose cette courbe à celle que je vous ai montrée au départ, vous voyez que c'est en adéquation qui est pas mal, en tout cas chez les sujets jeunes, et c'est vrai que cette décroissance brutale de mortalité chez les enfants peut tout à fait correspondre à la disparition, si j'ose dire, des cas mendéliens. Et après, il faut attendre un peu pour voir réapparaître la prédisposition chez les sujets un peu plus âgés. Alors, par contre, chez l'adulte, c'est sûr qu'il y a des, choses qui ne seront pas expliquées directement par ces variants génétiques, ça c'est certain.
Voilà, donc, comme Philippe l'a dit, donc, c'est un travail mené dans le laboratoire qu'on dirige avec Jean-Laurent Casanova, qui est à la fois à Paris et à New York, à l'université Rockefeller.
Dans les gens impliqués, je voulais citer une personne sur le plan mendélien, c'est Stéphanie Boisson-Dupuis, qui a fait tout le travail L12R-bêta-1. Et sur le plan complexe, Audrey Grande, qui a fait tout le travail concernant le gène TOX dont je vous ai parlé.
Et puis, beaucoup, évidemment, de collaborateurs à travers le monde.
Au Maroc, donc, beaucoup, j'en ai parlé, à Madagascar.
Beaucoup de cliniciens qui nous adressent des patients du monde entier. Voilà, je vous remercie.